Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Les rêves vous parlent. Bonsoir. Je me présente tout d'abord, je suis Christiane Ridel et j'étudie les rêves depuis plus de 40 ans. Je les interprète et j'en enseigne l'interprétation depuis bientôt presque 30 ans. J'ai écrit 3 livres, je tiens un blog depuis 9 ans où j'explique les rêves et leur interprétation. L'adresse de mon blog, c'est christiane-ridel.blogspirit.com et vous trouverez également toutes sortes d'informations sur mon site www.christiane-ridel.fr. Je ne vous en dirai pas plus. Je suis impatiente de vous parler le plus vite possible des rêves et aujourd'hui, je commencerai par vous raconter une petite histoire des rêves. Avant toute chose, par un souci de clarté, je vais définir ce qu'on appelle un rêve. Le rêve se définit par ses images qui se déroule devant nos yeux quand nous dormons dans l'état inconscient. Mais pas seulement. Ce qu'on appelle une vision est tout aussi bien une image, exactement comme un rêve. Une image qui surgit non pas quand on est endormi dans l'état inconscient, une image qui surgit quand on est éveillé dans l'état conscient. Ces images, qu'on les appelle rêves, cauchemars, songes, fantasmes, visions, ont les qualités du réel. Souvent même, nous éprouvons des émotions d'une intensité que nous n'éprouverons jamais dans la vie. Et cependant, ces productions sont immatérielles. Pour toutes ces images, je parlerai en toute généralité de rêves. Depuis 180 millions d'années, on estime que les animaux, comme les humains, rêvent. Et les humains, eux, rêvent chaque nuit pendant 2h30 au moins. Des milliards de rêves ont lieu en 24 heures. Et il est remarquable que notre société occidentale commence tout juste à s'y intéresser. Néanmoins, il n'en a pas toujours été ainsi, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je vais donc vous présenter un petit historique. Quand on se penche sur l'histoire des peuples, des civilisations, et des religions à travers le temps et l'espace, on constate très vite que le rêve, autrefois, était omniprésent. Les plus anciens textes parlent des rêves qui ont toujours fasciné. Ainsi, quel que soit l'endroit du monde que l'on regarde, les mêmes caractéristiques se présentent sur toute la Terre, dans toute son histoire, depuis l'origine. Que ce soit en Orient, en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en Asie mineure, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Australie, on constate la même conception du rêve, les mêmes pratiques d'interprétation, la même littérature avec les mêmes affirmations. Donc, nous allons voir, premièrement, la même conception du rêve, deuxièmement, les mêmes pratiques d'interprétation, et troisièmement, la même littérature avec les mêmes affirmations. Donc, voyons d'abord quelles étaient les conceptions. Le rêve était considéré comme le canal naturel entre le divin et l'humain. Partout et toujours depuis des temps immémoriaux, on constate qu'il a été connu et reconnu que le rêve est non seulement le gardien de la santé et le thérapeute, mais aussi le guide dans la vie. Comment cela se fait-il? On retrouve l'affirmation générale que le rêve donne accès à un autre niveau de conscience qui dépasse le conscient. Et dans ce niveau de conscience, on obtient des connaissances auxquelles le conscient seul n'a pas accès. Cet autre niveau de conscience, nous l'appelons du nom scientifique de l'inconscient. Mais les autres cultures autrefois pensent que ce niveau de conscience est celui des forces qu'elles appellent divines. Le mot « Dieu » que ces cultures emploient a pris aujourd'hui une tonalité exclusive, limitative et souvent négative dans notre vocabulaire d'aujourd'hui. Il convient donc d'employer des termes différents. Les Romains, eux, parlaient du génie personnel à chacun. Les Grecs parlaient de leur daimon, qui n'a rien à voir avec le mot démon. C'était l'expression de Socrate. On peut employer aussi l'expression de force intérieure, ou la sagesse intérieure, ou encore on peut parler de force cosmique, de force universelle, ou de forces qui donnent la vie et la mort et conduisent le destin humain. Le grand psychiatre Carl Gustav Jung, au XXe siècle, appelle le « soi » cette forme qui réside en chacun de nous et qui s'exprime par les rêves. Ainsi, tous ces termes essaient de désigner un dynamisme qui sait mieux que le moi conscient, un dynamisme qui dépasse les limites de l'humain. La raison ne maîtrise pas ce dynamisme, mais elle ne peut pas le nier. C'est un domaine où notre chère raison, rationnellement, reconnaît qu'elle a atteint ses limites et qu'elle ne peut plus rien dire. Ainsi, l'humain dans le rêve fait l'expérience de force qui le dépasse, qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, et les hommes ont toujours et partout appelé ces forces divines. En voici plusieurs exemples. En Inde, il y a 4000 ans, le Yoga Sutra explique que le rêve donne accès à d'autres niveaux de conscience et à des connaissances dont le conscient n'a aucune idée. Chez les Grecs et chez les Romains, il y avait le dieu des rêves, Esculape, qui était aussi le dieu de la médecine. Les anciens accordaient la plus haute valeur aux rêves. Ainsi, 50 ans avant Jésus-Christ, le contemporain de César, Sylla, qui était consul, général et dictateur de Rome avant César, donc ce grand personnage, disait « Rien ne peut être considéré aussi certain et digne de confiance qu'un ordre donné par les rêves. » Dans la Bible, chez les Hébreux, le rêve est très souvent mentionné en relation avec le divin. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, verset 6, vous pouvez lire « Écoutez donc mes paroles, dit l'Éternel, c'est en vision que je me révèle à l'homme, c'est en rêve que je lui parle. » Et je vous citerai le beau passage dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Voici, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Les Arabes ont la même conception des rêves. Dans la littérature sumérienne, 1700 ans avant Jésus-Christ, un récit raconte que les dieux ont décidé d'anéantir les humains par un déluge. Et ce texte est à l'origine du rêve du déluge dans la Bible. Mais dans le texte sumérien, un des dieux prévient le héros en rêve et lui conseille de construire une arche qui le sauve des eaux, lui et les animaux qui l'accompagnent. Je passe maintenant 1000 ans plus tard et je change de continent. Je vous parle des Indiens d'Amérique du Nord et plus particulièrement des Hurons. Écoutons ce qu'ont raconté les pères jésuites au XVIIe siècle qui sont allés pour évangéliser les Hurons. Et le passage que je vous cite est extrait des relations des jésuites de la Nouvelle-France et en particulier, ce sont les récits qui ont été écrits par un jésuite très connu qui s'appelle Jean de Brébeuf. Ainsi, on peut lire « Le rêve est l'oracle que tous les peuples consultent et écoutent. Il leur annonce les événements futurs, les prévient des malheurs qui les menacent. Il est le médecin habituel de leur maladie, le Dieu qui soigne tout le pays. » Ainsi, le père jésuite souligne clairement que les Hurons d'Amérique du Nord du XVIIe siècle et les Grecs 2 à 3000 ans plus tôt ont la même conception du rêve. Le jésuite explique, le rêve est leur seigneur et leur maître absolu. Si d'un côté leur chef leur parle, et de l'autre leur rêve qui leur donne un autre ordre, le chef aura beau crier et menacer, d'abord il faudra obéir au rêve. À vrai dire, le rêve est le principal et le plus grand dieu des Hurons. Après cette trop brève évocation, nous sommes amenés à constater que partout et toujours, les hommes ont considéré le rêve comme la grande voie de communication naturelle entre l'humain et un autre niveau de conscience qui dépasse l'humain. Toutes les traditions sur tous les continents, liées au long de milliers d'années, partagent cette même conception. Ces traditions qualifient ce niveau de conscience du mot de divin ou Dieu. Nous avons vu les conceptions. Voyons donc maintenant quelles étaient les pratiques. D'abord, il existe un corps spécial d'interprètes pour traduire les rêves. L'art de l'interprétation des rêves est un art qui existe depuis toujours. Toutes les sociétés ont eu leurs interprètes en Chine, en Inde, en Afrique, etc. Dans certaines civilisations, les interprètes faisaient partie des plus hauts dignitaires de l'État. Ils étaient prêtres ou sorciers, médecins, medicine man, chamans, quel que soit le nom qu'on leur donne. Tous ces hommes ont transmis, et femmes, ont transmis leur savoir et leur expérience, et l'histoire des grandes civilisations est remplie de récits de rêves et de leur interprétation. Par exemple, dans notre culture gréco-latine, existe un très célèbre interprète de rêves. Vous le connaissez en tant que père de la médecine occidentale. Je veux parler d'Hippocrate, celui qui a créé le serment de la médecine, le serment que prononce le médecin avant de devenir médecin, l'aspirant médecin avant de devenir médecin. Hippocrate faisait partie d'une grande famille où, depuis 17 générations, on cumulait trois fonctions inséparables. Les hommes étaient interprètes de rêves, prêtres et médecins en même temps. Ce fameux serment du médecin qu'Hippocrate a créé commence par ces mots. Je jure par Esculape, par Hygiée et par Panacée. Alors, je jure par Esculape, l'engagement se fait devant le dieu de la médecine et des rêves, Esculape. Hygiée a donné le mot hygiène et était une des filles d'Esculape. Quant à Panacée, elle était aussi une fille d'Esculape, donc une déesse, et son nom a donné le nom de Panacée. Une pratique qui peut nous sembler étonnante était répandue partout. Il s'agit de l'incubation. Le rêve étant le moyen naturel de communication entre le niveau humain et le niveau divin, l'homme peut poser des questions au rêve et recevoir des informations qui le guident. Partout a été ainsi pratiquée l'incubation du rêve. Et qu'est-ce que c'est que incuber un rêve? Eh bien, tout simplement, vous posez naturellement une question à votre rêve. Ça vous semble grotesque, invraisemblable, mais essayez donc, vous serez stupéfait. Par exemple, de façon tout à fait sérieuse, vous écrivez une lettre à votre rêve et vous lui dites « Cher rêve, j'aimerais recevoir des éclaircissements à tel sujet. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil et donnez-moi aussi un rêve court que je puisse comprendre. Glissez la lettre sous votre oreiller et dormez tranquillement. Le lendemain, vous aurez un rêve et vous me direz « Mais le rêve n'a aucun rapport avec ma question. » Mais si, c'est simplement qu'il vous faut apprendre l'optique des rêves et votre rêve répond bien à votre question. Et combien de gens ont été ainsi guidés? La troisième caractéristique que je voulais signaler, c'est que les interprètes de rêves officient dans des lieux sacrés. En Chine, par exemple, les Chinois, dans l'Antiquité, se rendaient dans des temples pour y demander et y recevoir inspiration et instruction. Il était même du devoir des fonctionnaires et des gouvernants de se rendre dans ces temples officiellement pour demander conseil aux rêves pour les affaires d'État. Donc exactement comme en Grèce. Il existe ainsi en Chine un endroit de pèlerinage pour demander conseil aux rêves, toujours, et cet endroit très réputé s'appelle le mont de pierre et de bambou. Les gens continuent à s'y rendre et ils viennent recueillir un message des dieux sur la conduite à adopter, pour demander un diagnostic, demander aussi une thérapeutique pour une maladie, ou bien quel est le destin, ou bien retrouver son énergie vitale, le souffle chi, et aussi le souci de cultiver sa vie. En Asie mineure et dans tout le monde méditerranéen, on retrouve la même situation dans l'Antiquité. L'étude et l'interprétation des rêves remontent aussi loin que peuvent en témoigner les vestiges qu'on a retrouvés. Il y a 7000 à 8000 ans, les peuples de Mésopotamie interprétaient leurs rêves. Les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Hébreux, et ils se faisaient interpréter leurs rêves, de même que les chrétiens dans le christianisme primitif, qui avaient exactement les mêmes pratiques. Cela se faisait dans des temples, hôpitaux, où l'on venait se faire soigner. Il en existait dans le monde antique 420 sur tout le pourtour de la Méditerranée. Par exemple, à Pergame, à Kos, où officiait Hippocrate. Les pèlerins venaient de partout. À un moment donné, fixés par les prêtres et les pèlerins se réunissaient dans le temple à un endroit sacré appelé l'Asclépion, qui était l'espace consacré au dieu Esculape. Les pèlerins et les prêtres y dormaient une ou plusieurs nuits. Des témoignages ont été retrouvés sous forme de récits. Le dieu intervenait de diverses façons. Soit il guérissait immédiatement, soit il montrait son apparition par la présence d'un serpent dans les rêves. C'était là le signe de son assistance. La médecine occidentale a repris le symbole de ce serpent avec le caducée, mais en a oublié le sens. Le dieu, dans le rêve, expliquait aussi éventuellement le traitement à suivre pour guérir le rêveur. On a retrouvé sur place de très nombreux ex-voto qui remercient Esculape de sa guérison. Il faut aussi mentionner que l'interprétation des rêves n'était pas toujours sans difficulté. Il arrivait parfois qu'un conflit éclate entre le roi et le prêtre. L'interprétation déplaisait au roi parce qu'elle contredisait ses ambitions. Il y avait aussi des interprètes qui flattaient leurs clients pour se les garder et s'assurer des revenus substantiels et réguliers. Ceux dont il était connu qu'ils faisaient mal leur travail s'attiraient la colère et le mépris de leur entourage. Il y avait aussi des menteurs, ceux qui racontent des rêves mensongers pour égarer les autres, pour se vanter. Vous savez, ces problèmes existent toujours. J'en viens maintenant au sujet de la littérature. Cette civilisation du rêve sur la Terre, qui a duré des milliers d'années, a produit des témoignages innombrables et une littérature énorme s'est constituée. Par exemple, en Chine, une littérature très considérable et très sérieuse s'est créée au cours des siècles, et en particulier une littérature médicale. Le rêve apparaît comme un outil très important de diagnostic. En effet, les analyses sont si fines que l'on sait que tel déséquilibre physique induira telle sorte de rêve. C'est ainsi qu'en examinant le rêve, on peut diagnostiquer le point sensible de la santé du rêveur. À l'ouest, les récits des rêves et de leur interprétation surabondent. En Égypte, tout le monde connaît l'histoire du rêve de Pharaon environ 1800 ans avant Jésus-Christ. Pharaon rêve qu'il est au bord du Nil et qu'il voit 7 vaches grosses, grasses et belles sortir du Nil. À ces vaches succèdent ensuite 7 vaches efflanquées et affreuses qui dévorent les belles vaches grasses. Puis, le rêve se poursuit et Pharaon voit 7 épis magnifiques, gorgés de farine et qui s'épanouissent. À ce moment-là, 7 épis affreux, noircis, pourris apparaissent et dévorent les 7 beaux épis. C'est Joseph, un esclave juif, qui interpréta le rêve. Ce rêve annonçait une période de 7 années de prospérité, symbolisée par les 7 vaches grasses et les 7 beaux épis, et ces 7 années de prospérité seraient suivies de 7 années de famine, symbolisées par les vaches affreuses et les épis pourris. Joseph expliqua à Pharaon comment se préparer le pays à affronter la famine en rassemblant des provisions et des réserves pour sauver le peuple. On voit ici que 1800 ans avant Jésus-Christ, en Égypte comme en Chine, le gouvernant, le roi, le Pharaon, prenait ses rêves en considération, il les faisait interpréter et il les mettait en application pour gouverner la terre d'Égypte ou la terre de Chine et protéger le peuple. Toujours en Égypte, 1800 ans plus tard, à l'époque contemporaine du Christ, le philosophe juif Philon d'Alexandrie écrit un livre sur les rêves qu'il intitule « Les songes viennent de Dieu ». On y lit « Les songes sont un des moyens dont Dieu se sert le plus ordinairement pour communiquer avec les hommes ». Voyons maintenant en Mésopotamie l'Irak actuel. Je ne peux que mentionner le rêve du roi Nabuchodonosor, 600 ans avant Jésus-Christ, que le juif Daniel a interprété. Dans ce rêve, un envoyé de Dieu annonce au roi que sa mégalomanie va le plonger dans un épisode psychotique qui durera plusieurs années. Il sombrera dans la folie, mais recouvrera ses esprits et retrouvera sa puissance et sa gloire quand il la reconnaîtra qu'il n'est rien devant Dieu. Voyons en Grèce maintenant. Il y a énormément à raconter sur le travail que les prêtres grecs effectuaient avec les rêves et toute la population également. Alors, les témoignages sont innombrables. Voyons par exemple 500 ans avant Jésus-Christ, la grande époque de la Grèce. Eh bien, Socrate, le philosophe, Périclès, le gouverneur de la ville d'Athènes, racontent leurs rêves ou leur parle le dieu ou la déesse. Leur témoignage nous reste. 200 ans plus tard, donc 300 ans avant Jésus-Christ, Aristote écrit un traité intitulé « La vérité des rêves ». Environ 500 ans plus tard, 180 ans après Jésus-Christ, toujours en Grèce, donc 700 ans après Socrate et Périclès, un conférencier, Aelius Aristide, raconte des témoignages passionnants qui prouvent que les récits anciens ne sont pas isolés. Il relate comment à plusieurs reprises il fut soigné par le dieu Esculape qui lui apparut. Il existe aussi un célèbre traité d'onirologie écrit 200 ans après Jésus-Christ par Artémidore d'Éphèse qui a nourri tout le Moyen-Orient de l'Antiquité à nos jours. Lors de la chute de l'Empire romain, ce traité a été recueilli par les Arabes. Nous venons de voir qu'en Grèce, les hommes politiques, les philosophes, ont donné d'innombrables témoignages. Mais je choisirai un récit d'Homère, tiré de la célèbre Odyssée écrite 800 ans avant Jésus-Christ. Dans l'histoire d'Ulysse, Homère raconte de nombreux rêves où les dieux viennent interférer dans les actions des humains pour les aider, pour les prévenir des dangers. Voici le rêve de Télémaque, tel que n'importe quel élève de sixième peut le lire, puisque ce texte de l'Odyssée est fondateur et est au programme. Télémaque est le fils d'Ulysse. Ulysse a disparu depuis 10 ans. Il est parti à la guerre de Troie. Il n'est pas encore revenu. La femme d'Ulysse, Pénélope, n'a jamais perdu espoir de voir revenir son mari. Et elle refuse la main de tous les prétendants qui cherchent à s'emparer du pouvoir. Télémaque a quitté son île d'Ithaque et est allé rendre visite à son ami Ménélas sur une île voisine. Pendant ce temps, à Ithaque, les prétendants cherchent à l'évincer. Alors, Homère raconte. Cependant, Minerve a volé jusqu'au palais de Ménélas et s'est penchée sur Télémaque endormi. « Réveille-toi, lui dit-elle, l'aurore va paraître. Il te faut quitter bien vite le palais de Ménélas. Le père et les frères de ta mère veulent l'obliger à choisir un époux parmi ses prétendants. Songe au changement malheureux de ton existence si ce mariage s'accomplit. « Hâte-toi, Télémaque, hâte-toi de regagner Ithaque !» Le jeune prince se réveille, saute sur ses pieds, explique à son entourage qu'un rêve envoyé par les dieux, la déesse Minerve, lui enjoint de retourner à Ithaque pour protéger ses intérêts. Et donc, il rentre immédiatement sur l'île d'Ithaque. Le récit de ce rêve a 3000 ans. Il peut vous sembler une bien jolie histoire, inventée. Mais que direz-vous après le récit d'un autre rêve reçu à notre époque moderne, 3000 ans plus tard? Ce rêve m'a été raconté en 1992 par la maman d'une élève que j'avais au collège où je travaillais. Ce rêve était celui de sa grand-mère et sa mère témoin le lui avait raconté. Voici ce rêve. Sa grand-mère était une Polonaise mariée à un Français. Elle vivait à Paris et se rendait avec ses deux enfants en Pologne tous les étés pendant les vacances scolaires qui, à cette époque-là, duraient jusqu'à fin septembre. Cet été-là, au mois d'août 1939, elle passe, comme chaque année, des vacances paisibles en famille, quand un matin, elle est visitée par un rêve. Elle voit devant elle sa mère qui est morte depuis plusieurs années. Sa mère, sur un ton pressant, impératif, lui dit d'un ton qui ne supporte aucune réplique. « Prends les enfants et rentre immédiatement à Paris par le premier train !» Elle se réveille, affolée, elle est bouleversée. L'émotion est si puissante qu'elle prend ses valises, court à la gare avec ses enfants, prend le premier train qui part et rentre à Paris. C'était le matin du 1er septembre 1939. Quand à 5 heures du matin, la Pologne venait d'être envahie par les troupes allemandes sans déclaration de guerre. La rêveuse venait de prendre le dernier train qui rentrait en France. On reste saisi. Vous voyez que de nos jours, les rêves comme il y a 3000 ans viennent nous sauver de dangers qui peuvent être mortels. C'est bien ce que soulignait l'écrivain dans le livre de Job, dans la Bible que je vous ai mentionnée. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements afin de garantir sa vie des coups du glaive. Il existe bien des rêves qui préviennent des dangers. C'est même une constante qui devient une évidence quand on étudie les rêves prémonitoires, mais ce n'est pas mon sujet ce soir. J'aborderai maintenant le christianisme primitif. Il me reste à évoquer un point que l'on passe toujours sous silence. Je veux donc vous parler des rêves du christianisme primitif. Que serait le Nouveau Testament et tout le mythe chrétien de l'Occident, l'histoire du Christ, sans les rêves? D'abord, le rêve où Joseph reçoit l'ordre de l'ange de prendre soin de Marie et de son enfant. Puis, quelques mois plus tard, un autre rêve lui dit de s'enfuir en Égypte pour protéger l'enfant du massacre organisé par le roi Hérode. On constate ici encore la fonction du rêve qui est de prévenir des dangers. Et que dire quand on évoque le récit suivant dont on ne parle jamais? Le rêve, il s'agit du rêve de la femme de Ponce Pilate, raconté dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Pilate, le consul Pilate, siège au tribunal. Il a devant lui le Christ qu'il doit juger et dont les Juifs demandent la condamnation à mort. Et pendant le procès, voilà que la femme de Ponce Pilate lui envoie un messager par lequel elle le supplie de ne pas se mêler de cette histoire. Elle lui fait dire qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme, entre toi et ce juste. Aujourd'hui, un rêve m'a tourmentée. J'ai beaucoup souffert à cause de cet homme. Pilate alors essaye de sauver Jésus, mais voyant qu'il n'arrive pas, il prend de l'eau, se lave les mains et dit aux Juifs « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Qu'est-ce qui a poussé le gouverneur romain à déclarer que le Juif Jésus était un juste? N'est-ce pas le rêve de sa femme qui ne connaît pas l'accusé, mais qui vient d'employer justement ce mot « cet homme est injuste ». Vous voyez, ici, au cœur du mythe chrétien, de la passion du Christ, le rêve est présent. Et c'est le rêve d'une femme romaine, racontée à un gouverneur romain tout puissant, qui publiquement, devant les Juifs, tient compte du rêve, et plus encore, ce rêve est rapporté par un des premiers chrétiens. Je crois vous avoir montré clairement l'ampleur de la considération accordée au rêve autrefois. On en vient alors à se demander comment et pourquoi le rêve qui jouissait d'une telle considération s'est trouvé au cours des siècles, relégué au niveau de vulgaires superstitions, condamné et rejeté comme des absurdités. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Nous voilà 300 ans après Jésus-Christ. De fait, vont exclure le rêve de la vie spirituelle. Voyons d'abord la trahison de Saint Jérôme. Je mentionnerai donc ce fait souvent ignoré. Il s'agit du rôle absolument déterminant qu'a joué saint Jérôme pour condamner les rêves et en écarter les chrétiens. Jusqu'alors, on lisait la Bible dans les textes hébreux et grecs. Jérôme accomplit un travail colossal et traduit la Bible en latin. Cette traduction fut appelée la Vulgate. Cependant, Jérôme a falsifié la traduction de certains passages. Et c'est justement quand il s'agit des rêves. Parmi plusieurs exemples, en voici un. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, verset 26, on lit dans le texte hébreu l'ordre suivant. « Vous ne mangerez rien avec du sang, vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des prognostics. » Jérôme, lui, a traduit. « Vous ne mangerez rien avec le sang, vous ne consulterez point les augures et vous n'observerez pas les rêves. » Où est-il question des rêves dans le texte original? Jérôme les a introduits à côté des oracles. Jérôme a truandé le texte. Avec ses ajouts mensongers, il jette ainsi sur les rêves une condamnation qui perdure encore aujourd'hui. Après la chute de l'Empire romain, on n'aura plus accès aux textes originaux grecs et hébreux. Et la traduction de Jérôme en latin fera donc autorité et exercera ses ravages pendant des siècles. Il faut aussi mettre en évidence un deuxième facteur. Il s'agit du conflit entre l'Église et le rêve. Un siècle après Jérôme, 400 ans après Jésus-Christ, le christianisme devient la religion officielle. Un conflit majeur se présente alors. De nombreuses églises se sont formées avec des conceptions différentes du christianisme. Comment cette église catholique toute jeune, qui veut à tout prix imposer son autorité, peut-elle accepter de voir sa doctrine remise en cause? Et qui plus est, comment admettre l'idée et le fait que le divin puisse parler à travers les rêves et parler à n'importe qui, que ce soit en rêve ou en vision? Quelle imprudence, quelle arrogance démoniaque de prétendre que Dieu vous parle à vous personnellement dans vos rêves, alors que c'est la prérogative exclusive des ecclésiastiques. Le rêve menaçait l'hégémonie de l'Église. Le jésuite Jean de Brébeuf au XVIIe siècle avait bien remarqué la situation contraire chez les Hurons quand il avait noté: si d'un côté le chef donne un ordre aux rêveurs et de l'autre leur rêve donne un ordre différent, le chef aura beau crier et menacer, d'abord il faudra obéir au rêve. Soulignons en passant avec le père jésuite, l'expérience montre donc que le rêve assure la liberté de l'individu par rapport au pouvoir extérieur. Mais quand on veut régner dans l'absolutisme et le dogmatisme, on écarte tout souffle nouveau qui pourrait apporter un changement. Dès lors, l'Église catholique romaine va s'acharner contre les rêves et les rêveurs. Elle va associer l'interprétation des rêves à des pratiques hérétiques. Dans les années 1100 après Jésus-Christ, l'Inquisition prend de l'ampleur et s'acharne sur les rêveurs, Ceux qui parlent des rêves sont soupçonnés de se livrer à des activités occultes, accusés de sorcellerie, privés de leurs biens, jetés en prison, torturés, brûlés. La Bible mentionne 250 fois que Dieu parle dans les rêves et les visions. Et la Bible en donne des exemples. Mais en 1229, le pape Grégoire IX interdit de lire la Bible. Les chrétiens n'ont plus accès aux textes bibliques fondateurs, même pas en latin. Et le rêve et son interprétation sont présentés comme des activités diaboliques. Ainsi, le rêve fut exclu de la civilisation occidentale. Pour des siècles à venir, on ne parlera plus des rêves ni de leur interprétation. Le rêve, qui était au centre de la vie spirituelle personnelle, naturelle, authentique, disparut de la vie quotidienne et resta un secret caché au fond des âmes. J'en arrive maintenant au début du XIXe siècle. La condamnation millénaire est reprise par le Code Napoléon qui, en 1804, je crois, interdit de pratiquer l'interprétation des rêves en France. Savez-vous quand est-ce que cette interdiction sera levée? Cette interdiction sera levée en 1992, il y a 24 ans. Cependant, au milieu de ce 19e siècle, un courant de pensée se tourne vers le rêve et de façon remarquable, ce mouvement a lieu du côté scientifique. Ainsi en France, le professeur Charcot, père de la neurologie moderne, mène ses recherches sur l'inconscient à l'hôpital de la Salpêtrière. En Allemagne, à la fin du 19e siècle, résonne une parole pleine de promesses, c'est celle du chimiste allemand Kekulé. En 1892, Kekulé fait part en congrès de sa découverte de la structure atomique du benzène grâce à un rêve. Et il raconte, il cherchait donc cette structure atomique et fatigué de chercher, il s'assoupit et dort la tête sur la table. Il voit alors des serpents danser devant ses yeux, onduler et se mordre la queue. Il se réveille soudain, reprend son travail en gardant les images de son rêve à l'esprit et découvre la structure atomique du benzène. Kekulé termina sa conférence devant tous les savants par ces mots. « Messieurs, apprenons à rêver, alors nous trouverons peut-être la vérité. » C'est exactement les mêmes mots que Bouddha a employés 2300 ans auparavant, dans sa vision sous un arbre. Passons maintenant au XXe siècle. Le XXe siècle commence avec la publication du livre de Freud, « La science des rêves », qui semblait concrétiser les recherches de Charcot, dont il avait brièvement suivi les cours, et concrétiser aussi l'exemple de Kekulé. Tout le XXe siècle a été marqué par l'influence extraordinaire du médecin viennois et de la psychanalyse qui a pénétré tous les esprits. Aussi, de nos jours, on interprète souvent les rêves à partir des théories du complexe d'Édipe et du refoulement. Cependant, ces dogmes sont de plus en plus contestés. J'y reviendrai dans une émission plus tard. Mais ces dogmes ont détourné les gens de l'interprétation des rêves et ont grandement contribuer à ce que l'on rejette le rêve. Autrefois, on ne voulait pas en entendre parler. Maintenant, le rêve, grâce à Freud, apparaît comme un dépôt d'ordures morales, une poubelle à ordures morales. Donc, personne ne veut plus y aller. Voilà, donc je vous parlerai la prochaine fois du retour des rêves et comment les savants, et en particulier les neurologues et le grand savant psychiatre Carl Gustav Jung ont remis les rêves à l'honneur. Dans le temps qui nous reste maintenant, je changerai de sujet et je voudrais vous laisser avec quelques outils. Je voudrais vous laisser avec un outil simple, pratique, qui vous aide à interpréter un rêve par vous-même. Donc, je vais aborder avec vous très succinctement ce qui s'appelle la technique de l'interview. Vous la verrez largement expliquée sur mon blog et dans mes livres. Quand on interprète un rêve, dans la plupart des cas, les personnages de vos rêves ne désignent pas les personnes correspondantes en chair et en os dans le monde extérieur. Non, le rêve ne désigne, la plupart du temps, il ne désigne pas les personnes extérieures. Ces personnages que vous voyez en rêve représentent le plus souvent des aspects intérieurs de vous-même. Ces personnages désignent des façons d'être qui sont en fait les vôtres et que vous voyez chez les autres. Donc, en gardant bien ce principe à l'esprit, nous allons voir d'abord que signifie l'image de l'homme dans les rêves. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme? La seule chose qui distingue un homme d'une femme, je pense que vous serez d'accord, c'est son sexe. Le sexe de l'homme est extérieur, visible, et il est composé du célèbre service trois pièces, les testicules qui assurent la fabrication du sperme, qui donne le pouvoir de créer, le pénis qui se manifeste dans une force, une tension qui le durcit et le grandit. Grâce à cette transformation, il va pouvoir pénétrer le sexe féminin, éprouver du plaisir, en donner et déposer son sperme qui mène à une éventuelle création. De cette morphologie, on peut tirer les conclusions suivantes. L'image de l'homme représente une force d'affirmation dans le monde extérieur, concret de la matière, puisque le sexe de l'homme est à l'extérieur. Cette force d'affirmation masculine se manifeste dans la créativité avec les idées et les pensées. L'image du masculin dans les rêves représente la façon dont on pense, dont on crée par la pensée. Il représente les idées abstraites, la réflexion, l'analyse, le calcul, la logique. Mais il représente aussi les pensées et les opinions. Le masculin crée, il organise et construit. Il est capable de développer un projet. Ça, c'est le deuxième caractéristique. Et troisièmement, l'homme représente aussi la façon dont on s'affirme dans l'action. Le caractère masculin est dur, ferme, il s'impose, il est agressif et combatif. Il persévère pour réaliser un projet et le mener jusqu'au bout. En résumé, le masculin représente une force d'affirmation dans le monde extérieur, une force d'affirmation qui est créative, active et battante. Voilà, ça c'est quand on a l'image d'un homme dont on ne peut rien dire. Maintenant, qu'est-ce qu'une femme? Le sexe de la femme avec le clitoris et le vagin, est cachée à l'intérieur du corps. Et on peut tirer certaines conclusions de cette anatomie. La femme du rêve évoque le vécu intérieur, immédiat, irraisonné. La femme du rêve évoque tout ce qui concerne la vie instinctive et ses ressentis, les sensations, les émotions, les humeurs. Elle évoque tout ce qui vient spontanément, sans élaboration consciente, aussi les pressentiments, les idées, les intuitions, les expériences spirituelles et les images et les rêves. La femme du rêve vous parle donc de tous ces mouvements intérieurs, de toute cette vie autonome que vous n'expliquez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et si vous y faites attention, vous allez alors découvrir une dimension qui vous dépasse et qui vous introduit dans votre vie spirituelle personnelle. Voilà, ça c'est quand on ne connaît pas le personnage. Mais le plus souvent, on a un personnage connu qui apparaît. Et c'est là que j'aborde la technique de l'interview que je reprendrai dans d'autres rencontres. Voyons simplement cette technique avec le rêve très courant de Véronique. Véronique rêve. Je me trouve avec un collègue, Monsieur Leleu, Patrice. Et il me fait des propositions. C'est une image extrêmement fréquente. Je ne l'aime pas, il a des dents longues, et j'évite de le rencontrer. Voilà le rêve. Et comme toutes les femmes qui font un rêve semblable, Véronique se demande si son collègue dans la réalité va lui faire des propositions, et quand elle le voit, elle est très gênée. Je lui assure que son rêve a un sens différent. Et voici comment je procède à l'analyse et comment vous aussi, vous pouvez faire en 5 phases successives. Vous retrouverez toutes ces explications sur mon blog et dans le podcast. Premier point, je pose la première question, qui est ce collègue? Nous savons déjà que c'est un homme. L'image désigne donc une façon de s'affirmer dans le monde extérieur en étant créatif, actif et battant. Ici, c'est un collègue connu et il s'agit de quelqu'un qui s'affirme au niveau professionnel. Deuxième point. La deuxième question est comment ? Il est comment ce personnage ? Véronique m'explique qu'il est très travailleur et très ambitieux. Il fait tout pour avoir le maximum d'heures supplémentaires et gagner beaucoup d'argent. J'en arrive au troisième point. C'est un récapitulé. Je reprends ce que Véronique m'a dit et je dis. Patrice est quelqu'un qui, dans votre profession, a de l'ambition et veut gagner beaucoup d'argent. Après le récapitulé, je passe au quatrième point et je vais faire le lien avec la vie concrète. Pour cela, je reprends le récapitulé et je pose à Véronique la question décisive. Quelqu'un qui est travailleur et ambitieux, qui veut beaucoup d'argent, à qui cela vous fait-il penser, à l'intérieur ou à l'extérieur de vous au moment du rêve? À l'extérieur de vous, ce serait Patrice, et à l'intérieur de vous. La rêveuse reconnaît en effet dans l'image de Patrice des ressemblances. Et il faut absolument en être sûr. Donc, je vais faire des vérifications. Il faut que tout ce que la rêveuse a dit de Patrice puisse également s'appliquer à elle. Véronique admet qu'elle voudrait gagner beaucoup d'argent. Elle a parlé des heures supplémentaires. Est-ce que cela la concerne aussi? Elle se souvient alors que la veille du rêve, elle a exprimé au directeur le vœu d'avoir un maximum d'heures supplémentaires parce qu'elle a besoin d'argent. Elle est en train de divorcer, donc le portrait qu'elle fait de son collègue la décrit bien elle aussi. Que dit alors le rêve ? Je reprends, Monsieur Leleu me fait des propositions, je ne l'aime pas, il a les dents longues, j'évite de le rencontrer. L'image souligne le désir excessif. Véronique a un goût trop prononcé pour l'argent, il y a là un avertissement du rêve, il faut qu'elle évite de chercher à travailler pour gagner de l'argent. Maintenant, il s'agit de regarder la mise en application. Une fois qu'on a interprété le rêve, il faut le mettre en application et donc je conseille à Véronique de ne pas se comporter comme Leleu et de se montrer moins gourmande. Mais Véronique s'indigne devant la perspective de restreindre son niveau financier et elle refuse d'accepter la mise en garde de son rêve. Que s'est-il passé après tout ça ? Quelques mois plus tard, il a fallu fournir au juge les fiches de paie. Véronique, fonctionnaire, a déclaré les montants exacts de ses revenus. Mais son mari, un homme d'affaires prospère, s'est arrangé pour lui déclarer des revenus bien inférieurs à ceux de sa femme. Le juge a donc attribué à Véronique une pension beaucoup plus faible que prévu et la prestation compensatoire lui fut refusée. Quant à notre rêveuse, courageuse mais inconsciente, exténuée, elle a fait une dépression nerveuse. Le rêve l'avait prévenue contre son avidité. Je viens de vous montrer ainsi très succinctement comment comprendre vos rêves avec cette technique de l'interview. Et vous pouvez le faire avec vous-même, sans grille d'interprétation, sans théorie, sans idée extérieure. Et ce premier exposé m'a semblé indispensable pour que vous compreniez par vous-même tous les scénarios amoureux qui peuplent les rêves. Nous y reviendrons plus tard dans les mois qui suivent. Pour l'instant, l'heure qui nous est accordée est terminée et je vous quitte. Vous pourrez retrouver tout mon exposé en podcast. En attendant notre prochaine rencontre le mardi 12 avril à 9h du soir, je vous dis au revoir, au plaisir de me retrouver avec vous. Au revoir.